Je tiens à présenter le président de séance de ce matin, M. Olivier Couteau, qui est délégué à la Genève internationale, au département présidentiel donc, de notre République et canton. C'est peut-être un titre un tout petit peu plus particulier que de Genève délégué à la Genève internationale.
Ouais, c'est parfaitement
ça. C'est tout à fait ça. Et alors, je tiens à souligner que nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Comme François Bugnon a pu le dire hier au sujet du soutien que le président Longchamp accorde à nos démarches historiques et au travail de la Croix-Rouge internationale, de même, Olivier Couteau est un conseiller pour nous de première classe. C'est aussi une sorte d'avocat des historiens auprès du pouvoir politique et qu'ainsi il nous rend et il nous facilite grandement notre tâche, parce que vous savez que l'histoire n'est pas forcément la tasse de thé et des hommes politiques et des mécènes. Toujours est-il que nous avons là la chance d'avoir à la fois un homme qui connaît la Genève internationale, un homme qui connaît très bien le CICR. Vous avez été délégué du CICR un certain nombre d'années.
15 ans,
très bien, parfait. Et donc, je laisse maintenant la parole à Olivier Couteau. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Durand. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, honoré de présider cette première session de ce matin. Le sujet m'intéresse vivement pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant. Les liens entre l'humanitaire et la paix sont complexes, comme on a pu le voir, et sont évidemment pas indépendants de l'environnement dans lequel la question du lien entre la paix et l'environnement n'est pas une question théorique qui se discute dans une bulle complètement imperméable à toute espèce d'influence. Alors, pour le CICR, même si l'organisation est neutre et indépendante, elle évolue dans un environnement avec lequel elle doit composer. Alors, pour le CICR, cet environnement est notamment celui de la Suisse, de la politique suisse, de l'économie suisse, et c'est de la Suisse que nous allons entendre parler ce matin. Nous avons 6 historiens qui vont faire des présentations ce matin. Et je vous propose de commencer sans plus tarder, juste pour l'organisation des présentations. Donc en principe, chacun a 20 minutes pour faire sa présentation, à la suite desquelles 10 minutes seront consacrées aux questions. Nous ferons une pause après les 3 premières présentations et nous continuerons ensuite. Le premier orateur est le professeur Kreis. Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de le présenter à une assemblée d'historiens distingués comme ce matin. Je rappellerai seulement que le professeur Kreis a dirigé l'Institut interdisciplinaire d'études européennes à Bâle. Il est l'auteur de nombreuses publications sur l'histoire suisse avec un intérêt particulier pour les relations entre la politique intérieure et la politique extérieure. En lien avec le sujet du jour, je mentionnerai Insel der unsicheren Geborgenheit, la Suisse pendant les années de guerre 1914-1918, qui était publiée chez NZZ Libro en 2013. Et puis, comme vous le savez sans doute, le professeur Kreis a présidé la Commission fédérale contre le racisme de 1995 à 2011. Le titre de son intervention, les tentatives suisses en faveur de la paix, je vous cède la parole.
Merci. Mesdames, messieurs, chers amis, d'abord, invité ici à ce colloque, et d'avoir proposé ce sujet. Le 15 novembre 1915, Arthur Hoffmann, chef de la politique étrangère, écrivait, non sans une pointe d'autosatisfaction à l'ambassadeur de Suisse à Rome qu'il n'avait pas levé le petit doigt pour évoquer auprès de ce qui que ce soit la question de la conclusion de la paix. À dire vrai, il confirmait aussi dans cette missive qu'il partageait l'avis que la Suisse était appelée, tant sur le plan historique que politique que géographique, à assumer le rôle de médiatrice et à accueillir chez elle les négociations pour une éventuelle conférence de la paix. En même temps pourtant, il arguait que la Suisse ne devait ni se laisser imposer ce rôle, ni surtout se laisser induire par des éléments pacifistes à offrir ses bons offices de médiatrice au mauvais moment, c'est-à-dire prématurément. L'année précédente, en octobre 14, peu après le début de la guerre, Hoffmann avait reçu des appels émanant à la fois des milieux politiques et de la société civile, l'enjoignant à s'engager dans une médiation pour mettre un terme à la guerre. Venant des milieux politiques, il y avait une requête de la fraction socialiste et venant de la société civile, un appel de l'Association suisse pour le suffrage féminin et de l'Alliance des sociétés féminines suisses. Ces interventions ont amené le Conseil fédéral de définir les fondements de la position officielle de la Suisse dans cette question. Cette mise au point a prévalu ensuite peu ou prou durant les années qui ont suivi. La position fondamentale définie en novembre 14 se base sur quatre principes. Premièrement, que la médiation de la paix n'a de sens et ne sera prometteuse de succès que si les belligérants opposés la désirent eux-mêmes, respectivement, s'ils y sont prêts. Deuxièmement, qu'il faut attendre le moment propice. Troisièmement, que la Suisse ne doit pas s'agir seule, mais en lien avec d'autres États neutres, de préférence sous la houlette du président Wilson, dont on avait parlé à ce moment déjà. Quatrièmement, qu'il faut procéder selon la méthode des sondages confidentiels et non par des manifestations publiques et des conférences générales. Les différents péripéties de la politique dans ce domaine sont à peu près connues et il n'est ni possible ni nécessaire de les récapituler ici en tant que tels. Nous intéressons plutôt à la question de savoir quelles ont été les impulsions données par la société aux autorités et comment ces dernières y ont réagi. J'ai préparé une petite chronologie qui peut faciliter l'orientation dans ce domaine. Une autre question pourrait concerner les influences des représentants de l'économie. Celle-ci était limitée dans ses actions par la guerre, mais elle en a tiré d'énormes bénéfices aussi. Les sources en l'état actuel ne permettent cependant pas d'apporter de réponse à ce point. Une autre question d'ordre plus général serait d'examiner si la médiation de la paix était perçue comme une nouvelle tâche que le petit État neutre ajoute de lui-même à son cahier de charges. La Suisse nous paraît tellement près destinée pour officier comme médiatrice que nous ne nous demandons même plus depuis quand cette idée est importante au point de déterminer les actions du gouvernement, des médias, voire peut-être même de la population, et de générer des attentes dans ce sens. Un regard sur la littérature nous apprend que la Suisse se percevait en premier lieu comme modèle appelé à promouvoir l'idée républicaine. La mission humanitaire est devenue s'y greffer ensuite. Et la mission suisse pour la médiation de la paix n'occupe qu'une troisième position dans cette genèse. Comme nous le savons, le fameux arbitrage de l'Alabama de 1872, présidé par la Suisse et tenu à Genève, est devenu un modèle qui a permis d'attribuer à la Suisse une fonction de médiation plus générale. La Convention de la Haye de 1899 confirme explicitement à tous les États neutres le droit de médiation pour le règlement pacifique des litiges internationaux. Comme on peut constater avec la lettre précédée de Hoffmann du novembre 15, la diplomatie de la paix a bel et bien été perçue comme faisant partie d'une mission suisse. Bien que l'on ne trouve aucune preuve explicite à ce sujet, il est permis de supposer que le gouvernement suisse, par le biais de services de médiation neutre, aurait bien aimé démontrer l'utilité du statut de neutralité. S'y ajoute un motif de politique intérieure. Compte tenu de l'antagonisme croissant entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, la Suisse avait un intérêt à endosser un rôle de médiateur, en particulier dans le conflit entre l'Allemagne et la France, si possible, avec des prestations politiques allant au-delà de l'humanitaire qui commençait déjà tout de suite après l'éclatement de la guerre. De plus, si l'on voulait rester dans le jeu diplomatique, la retenue n'était pas de mise et l'on avait avantage de se trouver sur le terrain le plus tôt possible lorsqu'un mouvement diplomatique est prometteur. Ceci montre que l'on souhaitait d'être de la partie lors des négociations qui se tiendraient entre les belligérants à la fin attendue de la guerre, même comme non-belligérants, puisqu'elles aideraient à un ordre d'après-guerre concernant tout le monde. Le document de base de novembre 14 considérait bien évidemment que la fin de la guerre était hautement souhaitable pour l'Europe, pour le monde entier, pour le propre pays. Mais on y objectait aussi que ces initiatives risquent d'être affaires délicates, susceptibles de heurter de front les belligérants, puisqu'elle pourrait favoriser une des parties selon l'état d'avancement de la guerre, et donc d'être perçue comme n'étant plus neutre. En outre, en cas d'échec de la médiation, on encourait le risque de souffrir d'une perte de prestige. Lorsqu'en décembre 1916, et contrairement à la ligne de conduite fixée, le conseiller fédéral Hoffmann se déclara prêt à soutenir une action en faveur de la paix lancée par les empires centraux, il suscita un mouvement d'humeur chez Jules Camban, alors secrétaire général du ministère français des Affaires étrangères, qui releva que la Suisse le faisait penser à la grenouille, qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de la fable de La Fontaine. Quant à la tentative bien connue des messieurs Grimm et Hoffmann de promouvoir la paix séparée germano-russe en mai 1917, qu'il n'est pas nécessaire d'expliciter plus avant ici, elle pourrait aussi faire songer à l'histoire de la dite grenouille. Le collègue genevois François Walter juge qu'il y avait eu là une surestimation naïve. La question de savoir où organiser une future conférence de paix constituait un autre point particulier. En novembre 1915, Hoffmann voyait la Suisse comme un pays hôte, adéquat. En novembre 1916, il est question de Lucerne en raison de sa infrastructure hôtelière. Il est possible aussi que le conseiller fédéral se soit senti gêné par les impulsions émanant de la société civile. Les deux initiatives parlementaires faisaient partie d'un système de règles existantes et ont été traitées en conséquence. Soumises en décembre 1915, après la première intervention de 14, évoquée précédemment, l'interpellation du camarade Greulich était rédigée en termes particulièrement avenants. Elle concluait sur ces mots: nous ne souhaitons pas mettre le Conseil fédéral dans l'embarras, mais c'est un devoir d'humanité que de rapprocher les belligérants pour négocier la paix. L'intervention lancée par un comité très large en février 15, au travers d'une initiative nommée PAX, mérite une attention particulière parce qu'un appel similaire avait été lancé en novembre après, et a été lancé pour une, déjà mentionné par les organisations féminines. Et ces-là ont exprimé modestement l'espoir que leur requête soit considérée avec bienveillance. Cette nouvelle intervention reprenait la proposition bien connue et tout sauf originale de réunir une conférence des pays neutres dans le but de parvenir à une paix durable. Le texte s'attache d'abord à décrire les effets catastrophiques dans les pays en guerre et évalue la guerre comme un recul de civilisation pour le monde entier. Puis, il renvoie aux conséquences néfastes pour la Suisse en évoquant la paralysie du commerce et de l'industrie, la précarité de l'approvisionnement, l'inflation et le chômage, qui d'après moi n'était pas du tout le cas. Dans l'un des paragraphes, l'initiative PAX dénonce les raisons qui font que la Suisse est particulièrement destinée à promouvoir une initiative de paix. On y rappelle à la fois les bonnes relations de la Suisse avec tous les belligérants et la concentration d'institutions internationales sur son territoire. La Suisse, protectrice de la Convention de Genève, de la Croix-Rouge, du Bureau international de la paix, siège de 4 autres bureaux internationaux. Cette action a ceci de remarquable. qu'elle montre dans toute son ampleur l'alliance qui s'était constituée entre différents groupes de la société à cette occasion, et qu'elle rend visible aussi ceux qui ne sont tenus à l'écart. Ils participaient, l'Union suisse de la paix, les églises évangéliques, catholiques et catholiques chrétiennes, les universités de Bâle, Fribourg, Genève et Zurich, pas celle de Berne, la Société suisse d'utilité publique, la Fédération ouvrière suisse, l'Association des enseignantes, la Société suisse des maîtres imprimeurs, la Fédération typographe, des typographes et la Société des libraires suisses. Dans un premier temps, le gouvernement tenta d'écarter ce projet d'action publique en exposant ses préoccupations aux initiateurs dans une conversation confidentielle. Il n'a pas réussi cependant à empêcher le dépôt de cet appel. Dans une évaluation interne, il reconnaissait que l'intervention était portée par des organisations et des privés estimés et reconnus, tout en relativisant son constat. Un grand nombre de signataires se seraient laissés séduire par la belle idée en pensant que le Conseil fédéral se chargerait bien de vérifier si la voie proposée soit praticable. De plus, des corporations importantes avaient refusé d'accorder leur soutien. L'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union suisse des arts et métiers, l'Union suisse des paysans, on aurait pu relever encore l'absence des partis politiques dont la participation n'avait peut-être pas du tout été souhaitée. Dans sa réponse officielle, le gouvernement reconnaissait pleinement les nobles motifs en faisant également sien le désir de voir la terrible guerre prendre fin rapidement. Toutefois, il exposait aussi avec grande patience pourquoi il considérait que la voie proposée n'était pas la bonne, convaincu que seul un échange confidentiel entre les différents gouvernements conduirait à un résultat tangible. Se voulant rassurant, le Conseil fédéral déclarait qu'il accorderait toute son attention à cette question éminemment importante et ajoutait, presque en suppliant, qu'on lui accorde toute confiance quant au choix des moyens qu'il jugerait les plus appropriés. Le gouvernement resta avenant tout en campant sur ses positions et en maintenant ses prérogatives. Le fait qu'il se soit senti obligé de faire une telle déclaration s'explique à la fois par les attentes cumulées de la société désirieuse qu'on agisse pour faire cesser le conflit meurtrier, et une culture de pétition qui veut que l'on ait un impact sur le gouvernement. Il se peut aussi que l'appel a été lancé dans l'idée qu'il fallait entreprendre quelque chose indépendamment des chances de succès. L'initiative du Parti socialiste d'octobre 14 concluait d'ailleurs dans ce sens, citation, « Même la simple tentative d'un travail préparatoire entrepris sans se soucier du succès final constituerait déjà un acte pour lequel toute l'humanité civilisée serait reconnaissante. » Pour conclure, une thèse peut-être un peu osée. Nous savons que la guerre, outre ses conséquences désastreuses pour beaucoup de personnes, avait aussi des effets positifs, en ce sens que inciter l'État à prendre davantage de responsabilités pour assurer le bon fonctionnement de la société, qu'elle a fait avancer quelque peu l'émancipation des femmes et qu'elle a amené à un renforcement de ses sphères. Dans la politique étrangère aussi, on pourrait parler d'un petit progrès, puisque l'exécutif a dû partager un peu de son ancien privilège absolu en matière de politique étrangère avec le Parlement et le peuple. Ce petit progrès a sans doute contribué aussi à réunir une majorité, quoique faible, du peuple et des cantons en faveur d'une adhésion de la société, de la Suisse à la société des nations en mai 1920, et a fait que l'initiative pour un référendum sur le traité d'État, après avoir été refusée catégoriquement avant 1914 par le Conseil fédéral, ait été adoptée en janvier 1921. En juin 1918 déjà, dans un avis positif du Conseil national, au Conseil national sur le projet de la Société des Nations, le président de la Confédération, Félix Calonde, dressait le constat suivant, et je vais terminer avec cette citation. Une idée laissée autrefois aux pacifistes et aux théoriciens souvent raillés est aujourd'hui entrée dans la politique et les milieux de la diplomatie, où elle s'en imposera dorénavant sans plus jamais se calmer. Merci de votre attention.